Et on va venir maintenant sur le Moyen-Orient. La guerre a repris sur place les hostilités. Washington a visé des cibles militaires. Téhéran a tiré sur une base en Jordanie. Les missiles ont été interceptés. On va faire le point avec Axel Monnier qui est à Washington pour BFM TV. Alors que dit Washington des frappes, des intentions de la nuit dernière, alors des deux dernières nuits?
Alors officiellement, l'idée, c'est clairement de reprendre la main sur le détroit d'Ormuz et d'éviter que les Iraniens puissent empêcher la circulation maritime. Mais on a vu aussi, à travers d'autres cibles, par exemple la centrale de Bachour, là-bas, eh bien, les Iraniens estiment que les Américains ont frappé, ont voulu frapper volontairement cette centrale. Les Américains estiment qu'ils ont visé une infrastructure militaire qui était proche de là. Mais il y a aussi ce pont ferroviaire qui a été visé et qui permet notamment le transport de marchandises vers l'Asie centrale. Bref, il y a un message qui a voulu être envoyé par les Américains. Donald Trump avait d'ailleurs menacé de toucher des infrastructures civiles. Il l'avait fait à de nombreuses reprises, mais peut-être pourrait-il mettre à exécution cette fois ces menaces pour montrer que les Américains veulent mettre la pression, ne veulent pas se relancer dans une guerre, qu'ils veulent revenir à la table des négociations, et ce, à leurs conditions. Donald Trump ne s'est pas exprimé de ces dernières heures. Il est revenu à Washington dans la nuit, très tard, depuis le sommet de l'OTAN, et n'a pas de rendez-vous à son agenda aujourd'hui. Mais on attend évidemment ses prochaines déclarations et ses prochaines prises de parole avec impatience pour voir quelle est la suite qu'il entend donner à ce qu'il refuse de nommer comme un retour de la guerre.
Axel Monnier à Washington pour BFM TV.
Alors c'est peut-être pas un retour de la guerre, mais en tout cas ça devient dangereux, parce que selon un média iranien, alors bien sûr prudence, mais avec cette source, mais quand même il y a une frappe américaine qui aurait visé le périmètre d'une centrale nucléaire iranienne.
Celle de Bouchehr. Alors ceux qui doivent faire attention, ce sont les Russes qui sont à l'intérieur, parce que après être partis, il y a un certain nombre de fonctionnaires et de spécialistes du nucléaire russes qui sont à l'intérieur. Les mots sont importants, les faits on va le voir aussi. Ça n'est pas une guerre, mais ça y ressemble. Mais dans les mots, pour l'instant, les Iraniens parlent simplement d'attaque américaine. Ils ne parlent pas, ils parlent de violation du cessez-le-feu, mais ils ne disent pas, voilà, les Américains ont décidé de reprendre la guerre, nous nous défendrons. Et c'est la même chose du côté des Américains. Il y a juste un petit glissement sémantique, notamment de la part du CENTCOM, le commandement vraiment de la région par les États-Unis, qui ne parle plus de frappe défensive, mais bien de frappe ciblée contre les infrastructures afin de rétablir la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Donc là encore, vous voyez bien qu'on joue un petit peu sur les mots. Il y a les faits qui me laissent penser qu'on est toujours pas revenu dans la guerre. Pourtant, on tape
90 cibles militaires visées par l'américaine, des systèmes de défense antiaérienne, des installations de surveillance côtière, des sites de stockage de missiles, de drones. C'est pas
qui
rien.
Qui sont tous le long des côtes iraniennes, du côté du détroit d'Ormuz. Sachant que, en plus de survoler pour bombarder, ils survolent les Américains pour voir ce qui s'y passe. Vous savez combien de millions de barils l'Iran a sorti en 24 heures? 11 millions. De barils. Ils font tout pour absolument sortir en préparant un possible blocus. Mais les Iraniens continuent de sortir du pétrole. Il y en a d'autres qui essayent d'en sortir ou de rentrer dans le détroit via les côtes omanaises, malgré les risques. Ça existe toujours. Donc, on est dans cette situation très difficile, sauf qu'on a déjà dépassé un cran par rapport à hier. Et évidemment, la nuit prochaine pourrait apporter encore plus.
Ça pourrait monter d'un cran encore, alors?
Pourquoi pas? Il y a aucun signe qui démontre l'inverse.
Marie-Laure Buisson.
Bonjour, quelles seraient
les raisons d'une désescalade?
Alors, une désescalade, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai l'impression que Trump a l'intention de taper du poing sur la table. On se souvient très bien qu'à partir du 17 juin, lorsqu'il y a eu la signature à Versailles du Memorandum of Understanding, on a vu les Iraniens tout d'un coup faire preuve d'un hubris invraisemblable et montrer à la terre entière qu'ils avaient terrassé le grand Satan, dont fallait s'attendre à ce qu'à un moment donné, ce genre de choses arrive. Parce que tout le monde leur avait dit, attention, Trump a quand même l'épiderme un peu sensible. Si vous l'humiliez trop et que vous n'arrêtez pas de dire, nous avons eu sa tête et nous l'avons terrassée, ça va se terminer comme ça.
Enfin, même dans son propre camp, c'est ce qu'on entendait.
Absolument, oui, mais tout le monde leur a dit, faites très attention, ça risque de mal se terminer.
On donne trop à l'Iran.
Par ailleurs, ils ont vu que certains bateaux commençaient un méthanier qatari, un pétrolier saoudien, plus un troisième bateau commercial, commençaient à prendre une route qui n'était pas celle qu'ils ont préconisée. Donc, ils se sont dit, il faut absolument arrêter ça tout de suite avant qu'une jurisprudence de route commerciale alternative se crée. Et donc, nous allons les attaquer. Et les Américains ont dit, c'est la goutte de trop et on va taper. Sauf que là, l'Iran joue un jeu extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que... comme vous le savez, dans le Memorandum of Understanding, les Iraniens avaient le droit de reprendre la commercialisation de leur pétrole, ce que vient de dire Patrick Sauce. Le problème, c'est qu'ils ont un mal fou à le vendre, ce fameux pétrole. Personne ne le dit, mais c'est vrai. Pourquoi ? Les Chinois ont réorienté leur achat de pétrole. Ils en demandent moins maintenant aux Iraniens. Deuxièmement, tout d'un coup, les Saoudiens, les Émiratis ont mis sur le marché des flots d'or noir à des prix bradés, ce qui fait que le pétrole iranien est moins attractif. Et donc, ils pensaient faire beaucoup d'argent ces jours-ci depuis le 17 juin. Et en fait, ils s'aperçoivent que l'argent ne rentre pas dans les caisses. Donc, c'est très mauvais pour le régime qui est déjà, comme vous le savez, exsangue et qui est encore plus en possibilité de s'effondrer d'un jour ou l'autre.
En attendant, le régime, il est focalisé aussi sur les obsèques de l'ayatollah Khamenei qui avait été tué lors des frappes en février dernier. Les obsèques ont lieu en ce moment même. Mm-hmm. Alors, tout est organisé, tout est au cordeau, foule de centaines de milliers de personnes, ça se passe du côté de Machad, ça a commencé tôt ce matin, ça va durer toute la journée, on est dans une période de deuil dans le pays. Donc, il y a à la fois la démonstration de nouveau des Américains pour dire « on tape parce que vous ne respectez pas votre parole », et puis les Iraniens qui font une espèce de démonstration de force à la fois religieuse, à la fois solennelle et politique. Quoi.
Voilà, c'est ça. C'est en fait... Mais l'Iran a toujours une tradition, si vous voulez, du deuil. Hein. Le chiisme, c'est vraiment une culture du deuil. Donc, ces traditions populaires, c'est autour des funérailles des uns et des autres, c'est toujours amasse beaucoup de monde. Et c'est vrai que, enfin, faut quand même reconnaître que c'est des marées humaines qui se sont déplacées, même si c'était... largement organisé, orchestré, financé par les bazars, par les milieux marchands de l'Iran qui soutiennent souvent le régime. C'est quand même des marées humaines qui se sont déplacées. Oui, donc les funérailles ont eu lieu à Téhéran, à Najaf et Karbala, du côté irakien, et puis maintenant c'est à Machad où la dépouille mortelle de Khamenei sera inhumée. Là où c'est un lieu saint extrêmement important dans l'islam chiite puisque c'est le lieu où c'est le tombeau du 8e imam, l'imam Reza. Et c'est d'ailleurs ce Imam Reza qui fait le lien entre l'Iran et le monde arabo-musulman dans cette région-là. Et Donald Trump avait donné une semaine pour ses funérailles. Oui. Il n'a pas réussi à tenir sa semaine. Il y a eu une escalade militaire. Mais pour revenir à votre question tout à l'heure, on est toujours en situation de guerre. Un cessez-le-feu, juridiquement, tant qu'il n'y a pas d'accord de paix, on est en guerre. Un cessez-le-feu, c'est les armes se taisent pendant quelques temps. Là, on voit qu'elles ont du mal à se taire et puis elles ont repris de plus belle. Mais on est toujours dans une situation de guerre et tant qu'il n'y aura pas d'accord de paix, on sera dans une situation de guerre. Et le juge de paix de cette situation de guerre, c'est le cours du baril de pétrole. Parce que depuis qu'il y a eu cette relance des escarmouches le baril a tout de suite pris $10. Donc ça va très vite, si vous voulez. Les marchés financiers, le Dow Jones a chuté, le CAC 40 a chuté, toutes les places boursières sont extrêmement pointilleuse sur ce qui se passe dans cette région, car c'est évidemment, s'il y a une escalade et si cette escalade se poursuit, ça va revenir à une pénalisation de l'ensemble de l'économie mondiale et on va revoir ce qu'on a connu il y a un mois au plus fort de la guerre, au moment où vraiment la tension était forte et on peut avoir un baril à $100 très vite. Hein. Oh, mais... on voit la vitesse, si vous voulez, de réaction des marchés financiers dès qu'il y a des tensions sur ce golfe.
Mais quand même, j'imagine Donald Trump qui avait promis de renverser le régime. Alors il a tué l'ayatollah Khamenei. Là, c'est les Iraniens, une partie des Iraniens enterrent le guide suprême. Le nouveau, on ne l'a pas vu, son fils.
Toujours
on ne l'a jamais vu. Mais le régime, ça prouve aussi que le régime est toujours là. Il est toujours debout, et même en démonstration de force, Patrick Sauce.
Et même radicalisé.
Il est radicalisé. Puis si on vous parle de reprise de la guerre, mais pour faire quoi ? Moi, je distingue la stratégie de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire on a un souci sur le détroit d'Ormuz, on bombarde pour faire en sorte que les navires puissent naviguer, puisqu'on a promis du côté de l'administration Trump qu'il y aurait une liberté totale. Vous avez, il faut pas l'oublier, hein, en ce moment même, juste devant Ormuz, vous avez deux chasseurs de mines avec un pavillon français, vous avez des Belges qui sont là, des Italiens, des Anglais qui attendent d'avoir la possibilité de déminer. Sauf que ça fait une promesse tenue qui n'est toujours pas tenue par Donald Trump, celle du détroit d'Ormuz. Donc du coup, la stratégie, je la comprends bien là-dessus, mais pour le reste, c'est-à-dire une reprise de la guerre. C'est pour ça que j'hésite encore, parce que on est simplement sur taper un bout de côte et une riposte de l'autre côté.
Escarmouche.
Si on revient à escarmouche, toujours un peu léger forcément de le dire, mais moi-même j'utilise ce mot-là, Alain, sans problème. Mais reprise de la guerre, c'est pour aller jusqu'où ? On a vu que taper très fort, ça ne servait qu'à radicaliser encore plus le régime. Donc, moi je repense à ces mots de Pitexet il y a quelques semaines. Alors, les gars parlent beaucoup, c'est certain, mais le secrétaire à la guerre a dit « Je suis tellement fier de ce blocus naval qui a même mieux fonctionné que la campagne de bombardement. » Aveu de faiblesse, et en même temps, ça montre quand même, parce que Marie-Laure Buisson l'expliquait sur l'étranglement financier des Iraniens, ça se passera peut-être quand même par là, l'or noir qui ne sort plus et les dollars.
On peut imaginer un nouveau blocus.
C'est plus facile, hein. C'est moins deux.
Un nouveau blocus, comme la dernière fois, américain, absolument, ce qu'on avait appelé
le blocus du blocus,
absolument, blocus au carré, absolument, pour étrangler le régime iranien, sachant qu'il faut également, il y a un paramètre qui rentre en ligne de compte, c'est que de plus en plus, on a le sentiment quand même qu'il y a une scission au sein des Iraniens, avec des durs de durs et des moins durs incarnés par Khalibaf. Alors, moins durs incarnés par Khalibaf,
c'est Parlement, déjà...
Président
du Parlement, c'est ça.
Absolument, président du Parlement, qui était à la manœuvre pour les négociations. Et on a le sentiment quand même que tous ces gens-là ont de plus en plus de mal à se mettre d'accord.
Oui, on a vu le ministre des Affaires étrangères iranien chahuté pendant les funérailles de Khamenei par les détenteurs d'une ligne dure. C'est-à-dire que ceux qui négocient en ce moment avec les États-Unis sont vus par ceux qui sont tenants d'une ligne dure comme des traîtres. Ouais. Et en fait, cette guerre, elle a radicalisé, elle a polarisé les situations. Bon, pour l'instant, c'est les pragmatiques qui ont les mains à l'intérieur de la République islamique, c'est-à-dire ceux qui veulent sortir le pays de la guerre et essayer de trouver un modus vivendi avec les États-Unis, une espèce de conciliation qui permettra de régler les problèmes, mais il y a toute une frange radicale qui considère que leur chef d'État a été tué par l'ennemi américain et que ils doivent appliquer la vengeance ultime, c'est-à-dire essayer de retourner dans une situation de guerre.
Et il faut quand même, parce que c'est pas neutre, il faut quand même bien visualiser ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire que à Machad, lors des obsèques de Khamenei, on a vu quand même une banderole. Avec marqué, nous offrons 100 millions, banderole officielle, naturellement.
Oui, nous allons tuer Trump.
Nous allons tuer Trump et offrons 100 millions de dollars à celui qui arriverait à le tuer. Donc, je veux dire, vous imaginez s'il y en avait des obsèques nationales en France et qu'on mettait des mots. C'est extraordinairement agressif. De surcroît.
C'est un défi lancé à Donald Trump.
C'est un défi lancé à Donald Trump et sur une personnalité extrêmement narcissique comme Donald Trump, faut pas s'attendre à autre chose.
Il les a insultés hier.
Bien sûr, il y avait les scumbags
C'est des vicieux, des ordures.
Il faut pas s'attendre à autre chose qu'une montée en tension.
Néanmoins, Trump semble toujours un peu quand même coincé parce que qu'est-ce qu'il peut faire de plus ?
Mais il n'a que des impasses face à lui ou des mauvaises routes. Revenir sur la route des discussions qui s'annonce extrêmement longue et le chemin est tortueux. Il est voulu par...
Il s'était donné 60 jours. Hein.
Oui, ça sera beaucoup plus.
Ce sera plus.
Avec, à chaque fois, ce genre de séquence comme celle qu'on est en train de commenter. C'est le grand risque. Puisqu'on part de rien. Il faut vraiment imaginer un cadre avec simplement les baguettes du tableau qui, lui, est totalement blanc, sans aucune signature. Donc, on va partir, on était d'accord sur rien, on s'est juste mis d'accord sur le fait d'arrêter un petit peu les frais.
Oui, mais les pays de la région, ils n'ont pas envie que ça recommence.
Et voilà,
ils sont visés aussi. Là, la Jordanie, il y a eu un tir de missile qui a été intercepté.
Oui, sachant que vous avez remarqué, mais la Jordanie, c'est sur le chemin d'Israël.
Voilà.
On ne sait pas jusqu'où allaient les missiles.
Donc, les pays de la région qui ont quand même subi des dégâts, qui ont vu leur économie prendre un sacré coup derrière la nuque.
Je pense notamment à Dubaï.
Leur image. Eux-mêmes, on avait promis de les protéger. On les a pas vraiment. Les Américains, ils ont pas vraiment protégé comme ils s'y attendaient. Donc personne n'a quand même intérêt à ce que ça reparte.
C'est le fonctionnement de la réciprocité iranienne. C'est-à-dire qu'ils ont pris 80 missiles sur le territoire iranien. Et ben, ils lancent les Iraniens 80 missiles ou drones sur les pays du Golfe. Alors c'est Bahreïn qui a pris la cinquième flotte américaine, une des plus grandes bases de la région et voire du monde. Le Qatar, le Koweït, maintenant la Jordanie, et on n'a pas parlé aussi d'un autre problème, mais qui va se présenter, c'est évident, dans les prochaines semaines. Là, on va vraiment rentrer dans des zones de turbulence extrêmement fortes. C'est la question de la relation entre le Liban et Israël. Pour l'instant, ça tient, mais combien de temps ça va tenir, sachant que ce qui a été signé, franchement, n'a aucune chance d'aboutir, puisqu'en fait, ce qui a été signé entre Israël et le Liban, ce sera tôt ou tard une reprise de la guerre civile si ce plan de paix est appliqué. Donc vraiment, on va arriver là pendant les vacances, là pendant les deux mois de vacances, je vous le garantis, à une situation extrêmement tendue sur les deux fronts, autant sur le Golfe Persique que sur la relation Israël-Liban.
Merci de ces mises au point concernant le Moyen-Orient, Patrick Sosmarie, Laure Buisson et Sébastien Regnault.